1917, le chemin des dames, les mutineries. Le général Nivelle lance en 1917 l'offensive du chemin des dames. C'est une telle boucherie que des mutineries vont se déclencher dans l'armée, durement réprimées. La paix ? Jamais. Deux années pour rien. Le front ne bouge pas, la guerre de position dure et se profile dans une sorte de flou effrayant où disparaissent les jeunes générations. L'hémorragie est déjà énorme, des millions de morts en Europe. Et la fin de cette folie ne s'annonce d'aucune façon. Dans les troupes, une propagande pacifiste se développe, notamment par l'intermédiaire de journaux comme le Bonnet Rouge. Au mois de janvier, les Allemands font des offres de paix, mais parce qu'ils réclament les minerais de fer de Lorraine, elles échouent. Au mois de mars, le prince Sixte de Bourbon-Parme s'efforce de négocier la paix avec l'Autriche. Le nouvel empereur, Charles, est son beau-frère. Vains efforts. La France et l'Angleterre déclarent ne pas vouloir négocier avec l'Autriche, mais vouloir la fin des empires centraux. La guerre va donc continuer. Une nouvelle offensive se prépare du côté français. Une de plus. C'est à Craon, sur le plateau. Entre Cerny-en-Launois et Craon, une crête s'élève, entre deux rivières, l'Aisne et l'Ailette. C'est là qu'au XVIIIe siècle, Louis XV avait fait ouvrir et entretenir un chemin qui permettait à ses filles, les dames de France, de regagner leur château de Boves. C'est là que va se dérouler la nouvelle offensive contre les Allemands. Le site du chemin des dames constitue une sorte de barrage naturel avec des pentes abruptes dont il faudrait tenir compte. Mais Nivelle ne se préoccupe guère du terrain. Il est persuadé de l'emporter facilement. Sa solution ? Une préparation d'artillerie, puis l'attaque menée par l'infanterie. On ne peut imaginer plus simple. Hélas, les Allemands sont mis au courant des projets français. Ils renforcent discrètement leurs effectifs, construisent des casemates bétonnées sous lesquelles sont dissimulées des mitrailleuses. Leurs abris sont creusés à 10 ou 15 mètres de profondeur. Lancer des hommes contre ce dispositif, c'est courir au suicide. Pourtant, au matin du 16 avril 1917, Nivelle ordonne sa préparation d'artillerie qui atteint les premières lignes ennemies, mais ne produit pas l'effet escompté. L'infanterie française est alors lancée contre les pentes du chemin des dames. Les mitrailleuses allemandes se dévoilent et se déchaînent. Les soldats tombent par milliers sous leurs tirs croisés. Au soir de l'attaque, des régiments entiers ont disparu. Les fantassins survivants se terrent au bas des pentes où les cherchent les balles des mitrailleuses qui ne cessent de tirer. Derrière, les ordres sont les ordres. Il faut avancer. À la fin du premier assaut, 40 000 Français sont tombés sous les balles. Nivelle persiste. Il s'obstine pendant 6 semaines. C'est un désastre. Les pertes sont énormes. 270 000 hommes.
La chanson de Craon. L'inutile boucherie de Nivelle met au plus bas le moral des soldats. Née à Verdun, cette chanson est adaptée pour la bataille du chemin des dames, pour Craon en particulier, où les combats ont été les plus meurtriers. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours. De cette guerre infâme, c'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir, sur les grands boulevards, tous ces gros qui font leur foire. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien. Nous autres, les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés, là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. les mutineries de 1917 vont bientôt suivre.
La tuerie du chemin des dames déclenche, comme le laisse entendre la chanson, des grèves, davantage même, des mutineries. Les soldats ne supportent pas d'être poussés à la mort comme du bétail. Ils ne supportent plus de voir, lorsqu'ils vont en permission, les embusqués qui font la fête et les regardent parfois avec mépris ou ironie. Deux régiments entiers se révoltent et menacent de marcher sur Paris pour demander au Parlement une paix immédiate. Des officiers qui interviennent pour tenter de ramener l'ordre sont pris à partie. Au début de juin 1917, un général reçoit même des pierres. Sa fourragère et ses étoiles sont arrachées. Novembre 1917, Clémenceau, le perd la victoire. À l'arrière, Rennes, Paris, des grèves éclatent. Nivelle est relevé de ses fonctions, Pétain le remplace. La répression commence. 554 condamnations à mort sont prononcées. 49 soldats sont exécutés. Pétain s'efforce par la suite d'améliorer le quotidien de ses combattants de 20 ans, les poilus. Le rythme des permissions s'accélère, les repas et les cantonnements s'améliorent. Mais le défaitisme persiste. C'est alors que Poincaré, le président de la République, fait appel à Clémenceau. Celui-ci, très populaire auprès des soldats. Il publie un journal où il ridiculise les généraux incompétents. Se met à visiter les tranchées, appuyé sur sa canne, répétant partout, près des soldats ou à l'Assemblée.
« Ma politique intérieure, je fais la guerre. Ma politique extérieure, je fais la guerre. »
Il y gagnera le titre de « Père la victoire ». En attendant, la guerre continue.